Voilà, j'ai hésité sur les titres. Ça va être un peu autobiographique. C'est l'histoire d'un... fond SMI. Donc ma vie, mes cartes, mes plans, pas les miens. Alors ASEMI, ça veut dire Asie du Sud-Est et monde insulaire indien. Ça situe un peu les zones géographiques. Et puis comme j'ai hésité entre deux titres, ben, j'ai fait un titre alternatif. On parle de catalogage, c'est lieu. Donc il était une fois ASEMI ou comment sortir un patrimoine de sa réserve. Vous allez voir que la problématique qu'on a actuellement, ça tourne beaucoup autour de ça, c'est-à-dire que le fonds est actuellement très peu visible et très peu exploité. Voilà, donc la CENI, ça c'est le visuel qu'on utilise pour communiquer. C'est, appeler ça un logo si on veut. Donc la première partie de ma présentation sera une présentation générale du fonds, historique très rapide, constitution, qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds. On reviendra pas trop sur ce dont on parlait hier lors de la table ronde, c'est-à-dire le conflit qu'il y a eu à l'époque entre Nice et Marseille, même si ça fait partie de l'histoire du fonds. Et puis dans une deuxième partie, on collera un peu plus à la thématique de la matinée, qui sont les cartes et les plans, puisqu'on a un millier près de documents cartographiques dans le fonds ASEMI. Alors, les premiers bourgeons, effectivement, donc on va remonter un peu à l'origine du fonds, de manière autobiographique. Là, donc le fonds ASEMI, c'est le fonds ASEMI qui parle, là, qui a donc été créé par une équipe de chercheurs au sein de l'école des hautes études en sciences sociales, dès le début des années 60, avec des noms qui sont connus dans le champ des recherches en Asie, notamment en Asie du Sud-Est. L'ethnologue Georges Condominas, qui est vraiment le père fondateur de cette collection. André Georges Audricourt et un autre ethnologue, Lucien Bernot. Il y en a d'autres, ce sont les trois plus importants qui étaient à l'origine de la création d'un centre de recherche sur l'Asie du Sud-Est. Et ces premiers bourgeons vont éclore très rapidement grâce à un ensemble documentaire. Effectivement, dès l'origine, la recherche s'accompagnait forcément de la documentation, donc constitution d'une bibliothèque. Qui reçoit en 1965 un ensemble documentaire très complet en provenance de l'ancien musée des colonies, la bibliothèque de l'ancien musée des colonies. Très complet puisqu'effectivement, outre les monographies, il y avait déjà à cette époque-là donc énormément de périodiques, déjà les cartes et beaucoup de photographies, environ 6000 photographies. Qui avaient été soit prises par les missionnaires, soit collectées par les diplomates ou par les missionnaires en Asie du Sud-Est. Avec notamment un fonds d'un peintre officiel du ministère des colonies qui avait été envoyé en mission dans les colonies françaises, qui s'appelait Louis Dumoulin, et qui a collecté énormément de photos. Donc cette collection est conservée à la bibliothèque universitaire de Nice, avec un CD-ROM qui a été fait début des années 2000.
Je l'avais distribué l'année dernière, donc ceux qui étaient à l'occasion l'année dernière, ils l'ont mis en cadeau.
Cette période-là, donc, disons, une période assez, assez faste, assez prospère, avec beaucoup de chercheurs qui travaillaient, et des collections qui s'enrichissaient de manière assez rapide. Le laboratoire s'appelait le CEDRE ACMI, Centre de documentation et de recherche sur l'Asie du Sud-Est et le monde sud-indien. Le CEDRE ACMI qui était un peu le point de passage pour tout chercheur qui travaillait sur ces zones-là à l'époque. C'était vraiment le laboratoire de référence en France. Et donc beaucoup d'enrichissement de collection, pardon, par acquisition aussi. Et à l'origine, une collection très centrée sur l'Indochine. Et puis petit à petit, notamment par les thématiques de recherche de Georges Condominas, énormément de documents en langue vietnamienne, des documents sur le Vietnam, qui restent quand même le cœur du fonds Indochine-Vietnam. Mais des achats dans toutes les zones géographiques de l'Asie du Sud-Est, avec un fort métissage disciplinaire, effectivement. Ils ont essayé vraiment d'être exhaustifs dans les premières années, lors de la constitution du fonds. Voilà, j'ai fait la référence au hanami japonais, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les fleurs ont éclos et beaucoup de personnes venaient les voir, venaient les admirer. C'était la belle époque, j'ai envie de dire. Et puis, est arrivé les années ont passé, on s'est retrouvés fin des années 80. Et puis, ces conflits qui ont commencé, c'est-à-dire tout simplement histoire de chercheurs, semble-t-il, les anciens et les nouveaux, c'était un peu ça l'histoire. Et le fonds a été, donc, je vous passe les détails, le fonds a été divisé en deux. Une partie se trouve donc aujourd'hui à la Maison Asie-Pacifique. Le reste est à Nice. Donc on a environ 16 000 ouvrages à Nice, et pour la Maison Asie-Pacifique, c'est autour de 6 000, c'est tout.
Ouais.
Avec une répartition sur des zones... sur des zones géographiques. Voilà, j'ai appelé ça la fanaison. À Nice, pas à Aix, Nice qu'à Aix. Donc à Nice, une convention a été passée avec le service commun de documentation. Donc entre le laboratoire et le service commun de documentation, pour que les fonds soient en dépôt à la bibliothèque universitaire, mais continuent à être gérés par le personnel du laboratoire. Et puis, petit à petit, le personnel du laboratoire est parti à la retraite, et il n'y avait plus grand monde autour de ce fonds. Et effectivement, bon, le mot abandon est peut-être un peu fort. Le personnel du service commun de documentation a quand même continué à faire des acquisitions, n'a pas des abonnements périodiques, etc. etc. Mais les usages ont grandement baissé pour se retrouver au début des années 2000. Alors, pour vous prendre un exemple de cette situation, deux exemples, deux épisodes au goût un peu amer. Le premier épisode, c'est quelque chose de classique, des travaux de rénovation dans une bibliothèque. Donc le fonds ACMI est localisé dans cette bibliothèque qui a connu donc en 2009, 2010, 2011 une phase de rénovation. Dans ces cas-là, on a besoin d'espace pour stocker des choses. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le réflexe a été de dire, il y a un fonds, c'est nous, il y a de la place, il n'est pas utilisé, donc on va utiliser la salle qui était la salle de lecture de la CEMI traditionnellement pour faire un espace de stockage. C'est un épisode qui montre bien que finalement, à la bibliothèque, c'était devenu un fonds qui n'avait pas, qui n'était pas prioritaire. Bon, aujourd'hui les travaux sont terminés, en partie. Et le deuxième épisode, c'est une thèse soutenue en 2006 sur la photographie au Japon. Donc au début de l'époque de l'ère Meiji. Cette thèse n'a pas cité. Cette thèse se voulait être un inventaire exhaustif, après une base de données iconographique pour couvrir la période 1948-1983. L'exhaustivité n'a pas été atteinte puisque les collections qui sont dans le fonds ACMI n'ont pas été citées dans cette thèse. Pourquoi elles n'ont pas été citées? C'est certainement pas la faute du doctorant, un petit peu, mais c'est surtout, je pense, la faute, on va dire, de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la visibilité n'était pas bonne, et qu'un doctorant puisse passer à côté, c'est que vraiment, il y a quelques petits problèmes. Donc, c'est un constat un peu difficile qu'on a eu à faire. Je suis arrivé plus particulièrement sur ce fonds il n'y a pas très longtemps, en 2010, depuis 2010, donc l'état était à peu près celui que je viens de vous expliquer là. Plus d'acquisitions courantes, uniquement quelques abonnements périodiques. Et on a décidé de rempoter. Regardez l'image orale. Et on a fait un projet de réhabilitation, appelé réhabilitation, on a fait exprès de mettre des mots un peu forts, pour convaincre notre tutelle directe de l'intérêt de cette collection. Parce que il fallait bien se rendre à l'évidence que finalement, le fonds était plus connu à l'extérieur de l'université Nice qu'à l'intérieur, puisqu'on avait très peu du coup de chercheurs qui travaillaient sur ces thématiques. Donc le projet de réhabilitation visait déjà à relancer les acquisitions, à faire revivre le fonds, et pour faire revivre le fonds, essayer de reconstituer une communauté de chercheurs. Et puis on s'est dit que finalement, mais pourquoi ne pas ouvrir cette collection à tous les étudiants? Alors on a sur le campus notamment des études de chinois. Le reverdissement commence à prendre seulement là. On décide de faire des acquisitions d'un niveau beaucoup plus général. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que finalement, on a besoin que le fonds soit utilisé. Les chercheurs ne sont pas assez nombreux pour que vraiment le fonds ait un usage intéressant. Il y avait déjà des collections d'un niveau plus général dans ce fonds-là. Donc on a développé dans les acquisitions. Depuis 2-3 ans, on a développé cette politique. Et on a même décidé de rassembler tout ce qui pouvait avoir trait à l'Asie du Sud-Est, qui était éparpillé un peu partout dans la bibliothèque avant. On a décidé de tout remettre, tout rassembler dans l'espace ACMI en faisant un espace bien visible pour les usagers. Alors pour l'instant, on touche surtout les étudiants chinois, les historiens, les ethnologues. Et une des spécificités de notre université, c'est qu'on a énormément d'accords avec des universités étrangères, notamment des universités du sud-est asiatique, et on a des échanges avec des étudiants français qui ont besoin d'apprendre, de découvrir la culture, d'apprendre la langue, et des étudiants qui viennent de ces pays-là à l'université, qui sont contents de pouvoir avoir des documents dans leur langue ou sur leur pays. Alors, ça n'enlève pas le côté recherche du fond, hein, qui reste le cœur de la collection. Mais il faut bien avouer que, finalement, on envoie plus nos documents par le biais du prêt entre bibliothèques, par exemple, ou des demandes spécifiques sur les photos, etc., à l'extérieur que une utilisation par les chercheurs de l'université. Voilà, ça c'est un exemple que j'ai pris de réorientation, c'est-à-dire les documents étaient avant sur l'Asie du Sud-Est, étaient localisés un peu partout dans la bibliothèque. Hein. On les a rassemblés dans un espace bien identifié avec ce genre de message. On a une subvention du CNL pour relancer des acquisitions autour de ces thématiques. Un partenariat avec un laboratoire de l'université qui travaille sur un projet qui s'appelle Navigo Corpus, qui touche notamment les cartes et les cartes marines notamment. Ça, c'était une exposition qui a eu lieu au Japon début 2012 sur Georges Vigo et Nikko, le temple de Nikko, pour lequel on a été sollicité. On s'est aperçu en fait que dans nos photos, il y avait également des choses les photos qui ont été reproduites en plusieurs exemplaires. Il y a des exemplaires qu'on a retrouvé au Japon, en fait, au musée de Tsunomiya, et ces mêmes photos étaient également présentes. On a pu comme ça remonter un peu le lien entre Georges Bigot et Louis Dumoulin, se rendre compte qu'ils avaient voyagé ensemble à Nikko. Et sur le portail. Alors, sur le portail de la bibliothèque de l'université, qui a ouvert en début d'année, là, on a décidé donc de faire un espace dans les ressources qui s'appelle Collection Remarquable, dans lequel on va trouver nos fonds patrimoniaux, collections pour lesquelles on a des manuscrits d'auteurs, hein, de littérature, et des fonds qui sont des fonds spécialisés. Donc les collections de la CEMI ont été remises à un niveau plus haut sur le site web. Avant, c'était beaucoup plus profond dans notre site web, c'était très peu visible. On les a remontées avec une organisation qui est un peu inspiré de Data BNF, avec les différents documents qu'on a, des informations sur le fond et des liens vers des sites qui pourraient intéresser les personnes qui travaillent sur l'Asie du Sud-Est. Alors derrière, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas, si on clique sur carte et plan, par exemple, c'est juste une présentation très sommaire, avec quelques photos. Donc il y a tout un travail à faire, hein, tout ça. Mais on a déjà des retours assez positifs, notamment de consultations statistiques sur le site web. Par rapport à l'ancien site, on a beaucoup plus de visites sur ces pages-là. Elles sont beaucoup plus élevé. Et on a des demandes qui nous arrivent par ce biais-là. Donc le reverdissement dont je parlais passe aussi par cette réorganisation du portail. Alors, tout ça, ça vient d'être initié. Le projet de réhabilitation, on va encore la, il est en cours d'application. Il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Notamment, quelque chose qu'on essaye de relancer depuis 2 ans, la reconstitution d'une commission documentaire autour du fond. Alors, pour l'instant, on a du mal à vraiment relancer quelque chose de suivi. C'est très épisodique. On a 3 enseignants-chercheurs qui s'investissent quand ils peuvent, qui viennent sur le fond, qui essayent de mobiliser des doctorants sur ces thématiques-là. On a notamment, grâce à ça, 2 doctorants, dont une doctorante d'origine vietnamienne qui travaille sur les photos. Mais il faut bien avouer que, bon, en tout cas du côté du service commun de documentation, ça traîne un petit peu. J'ai l'impression que on a du mal à reconstruire cette commission documentaire. Le contexte budgétaire morose, bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, c'est un peu partout. Particulièrement chez nous, l'université qui est moyenne, de taille moyenne, avec l'exercice budgétaire déficitaire, ce qui veut dire forcément des réductions. Et puis ben, pour les sciences humaines, à Nice, c'est pas une discipline de pointe, hein, on est plutôt en pointe sur les mathématiques et la médecine. Donc c'est vrai qu'on a du mal à maintenir les budgets, et en avoir plus, c'est même pas envisageable. Et puis il y a ce problème récurrent du signalement. Alors on dépose tous les ans des demandes, des projets de rétroconversion auprès de la BES. Pour l'instant, ils ne sont pas passés. Il y a vraiment une situation très compliquée au niveau du signalement, puisqu'à la Maison Asie-Pacifique, ils ont déjà catalogué une bonne partie du fond à partir des fiches papier, ce qui fait qu'ils ont catalogué des choses qui sont localisées chez nous. Là, ils ont fait le travail pour nous. Qu'un jour on pourra. Ce qui fait qu'il y a une partie chez nous, il y a environ 50% des ouvrages qui sont catalogués dans le Sudoc, les tirés à part, etc. Mais beaucoup de documents ne sont pas encore signalés. C'est le cas notamment. Et donc je viens à ma deuxième partie. C'est le cas notamment pour les cartes où on a un signalement qui se résume aux fiches. Alors, les cartes, donc très rapidement, un gros millier de documents. Voilà, une période. Pas beaucoup de cartes anciennes. Là encore, c'est très souvent l'origine, c'est l'ancien ministère des colonies, avec beaucoup de plans, de cartes, de croquis qui avaient été faits lors des missions d'exploration en Asie du Sud-Est. Et pas mal de cartes d'état-major et des cartes en langue vernaculaire. Voilà, donc je vous disais, le signalement à l'heure actuelle, c'est ça. Donc c'est à ce commentaire. Alors, quelques séries intéressantes dans le fond. Pas mal de cartes, de plans et croquis de la mission Pavie. Voilà, je vous ai pris un petit exemple. D'autres missions aussi sont représentées, la mission Simon, par exemple, où là on a des cartes qui sont dans des albums reliés d'époque, qui sont un ensemble assez complet. Voilà, bon, ces séries-là viennent de l'ancienne bibliothèque du musée des colonies. Alors des séries qui sont plus ou moins complètes, hein, certaines ont énormément de feuilles, comme cette deuxième qui est indiquée ici. La première sur le Cambodge, 19 feuilles par le service géographique des Khmer. J'ai pris l'exemple de Kampot puisqu'on avait eu un échange avec Pascal sur, par rapport à l'exposition qui va être. Voilà, d'autres séries, je vous les montre. Pas mal d'atlas linguistiques aussi, hein. Il y avait pas mal de chercheurs, de linguistes, hein, dans le Cedra Semi, donc ils ont collecté beaucoup d'atlas linguistiques. Un exemple ici pour celui-là, on voit un peu moins bien. Et notamment toute une série d'atlas linguistiques au Japon. Alors ça, c'est pas très bien, en fait, c'est les variantes régionales des mots en japonais qui ont été mis sous forme d'atlas. L'université de Nice a des accords a eu très longtemps des accords avec l'université de Kobe et l'université de Keio, elle a encore avec l'université de Keio et une université à Nagoya. Donc on a tous les ans des visites dans ce cadre-là. C'est toujours intéressant, découvrir ces choses-là. C'est toujours des moments assez sympathiques qui nous permettent aussi de faire sortir ces collections, parce que sinon, effectivement, on n'a personne à l'université qui travaille là-dessus. Voilà, beaucoup de cartes sur le Vietnam. Les années 60. Notamment une série très très riche sur le Vietnam du Sud et d'autres séries plus ou moins complètes. Voilà, beaucoup de plans de villes aussi. Exemple ici. Et d'autres zones géographiques qui sont un peu moins représentées, mais qui. Voilà, ici un document sur l'Indonésie, donc l'île de Java, établie par le ministère des colonies hollandais. Madagascar, qui est très représenté au sein du fonds ASEMI, puisqu'on avait une équipe de chercheurs spécialement sur cette zone, avec des cartes aussi sur Madagascar et sur les Mascareignes. Et puis, pas mal de croquis, de dessins militaires, militaires ou réalisés par les missionnaires, notamment sur des prises de citadelles. De la fin du 19e. Et puis des cartes, on va dire des... Alors des cartes, j'ai envie de dire, un peu plus originales, si je peux dire, ici, une carte avec la faune du Cambodge, des cartes en langue russe, il y en a quelques-unes, on ne sait pas très bien comment elles sont arrivées là, donc de l'Asie du Sud-Est, mais en langue russe. Et tout ça, alors spécialement pour les cartes, puisque pour les photos la situation est un peu meilleure, c'est effectivement un héritage à sortir des silos. Avec pour certaines cartes un reconditionnement nécessaire. Et puis surtout essayer de. Voilà, on a relancé le département de géographie notamment, qui possède aussi énormément de cartes. C'est trouver des doctorants qui. Alors il y en a quelques-uns maintenant qui travaillent sur les cartes, pas spécialement sur l'Asie du Sud-Est, mais qui sont amenés à consulter le fonds. Mais on est encore dans une situation, ces deux gros points noirs là, comme voilà, d'isolement et avec gros problèmes de signalement de nos collections. Alors, on fait partie. De manière plus ou moins active de plusieurs réseaux. Alors le géoréseau, le site des cartothèques et bibliothèques universitaires, qui est piloté par Paris 8, avec voilà un site assez riche, plutôt bien fait, une publication qui s'appelle la Géofeuille qui présente un peu des collections droite à gauche et les projets qui sont menés un peu dans le monde des bibliothèques universitaires. Cartomundi, bon, je ne vais pas m'étaler dessus, mais effectivement c'est quelque chose qui nous intéresse, notamment pour les séries que je vous ai présentées. Sauf que Aix-Marseille Université n'est pas très loin, donc on va. Et le laboratoire, un des laboratoires de Nice travaille en partenariat avec Jean-Luc Arnaud, donc on espère pouvoir faire quelque chose. On suit de près aussi ce qui a été expliqué tout à l'heure au sujet du Comité français de cartographie avec la remise en marche du côté documentation. D'autres projets, souvent sont d'ailleurs portés par l'Université d'Aix-Marseille, par les Archives nationales d'Outre-mer aussi. Et puis, pour nous, voilà le réseau d'Ocasi qui, pas spécialement pour les cartes, ça nous permet, je remercie le comité de pilotage à cette occasion de m'avoir donné. Cette tribune, j'ose dire, pour vous présenter un fonds. Alors, je ne sais pas si vous le connaissiez. Non, donc ça montre bien qu'effectivement, il y a du boulot. Peut-être, qui sait, dans les années à venir, peut-être qu'on accueillera une journée d'occasion. Et permettra de vous montrer concrètement qui est conservé, avec aussi la bibliothèque municipale de Nice qui a des collections, un fonds Kawabata très, très, très riche, et un musée des arts asiatiques qui fait qui fait pas mal de choses. Voilà, donc avec tout ça, on espère sortir un peu de l'isolement dans lequel on se trouve. Et en attendant de vous accueillir à Nice peut-être, merci de votre attention. Si vous avez des questions...